Je prends juste un verset, mais qui va illustrer un thème que je veux développer, bien que le temps ne permettra pas de rentrer dans les détails, mais c'est aussi pour cet après-midi qu'on va utiliser ce mot pour vous aider à mieux comprendre ce que c'est que l'Église. Je lis dans Actes 2, 42, hein, vous connaissez pratiquement par cœur ce verset, mais c'est bien de le remettre en mémoire. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est l'Église naissante, hein, qui vient juste de naître suite à la prédication de Pierre. Et là, vous savez que les Actes des Apôtres, certains disent que c'est le cinquième évangile, au sens où c'est le début de l'Église primitive jusqu'à la fin de la mort de Jean, qui est mort à 99 ans. Hein, vous voyez, même à l'époque, on pouvait vivre vieux. Hein. Donc, cet acte des apôtres nous donne un modèle de l'Église, comment l'Église vivait. Et cet après-midi, on va le reprendre pour voir sur comment il faut voir l'identité de l'Église, parce que je sais qu'on n'a pas tous la même vision de l'identité de l'Église, parce que nos environnements et nos backgrounds, comme on dit ça en français, nos arrière-plans sont différents. Donc on va s'appuyer sur la parole et pas sur nos expériences ou nos traditions. Je relis ce verset-là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors je vais à nouveau vous mettre au défi, comme j'aime bien, parce que ça permet d'être interactif. La communion fraternelle, en grec, mais je ne demande pas à Colette de répondre parce qu'elle est férue en grec, hein, donc c'est pas juste. Si vous aviez une Bible en grec, telle que ça a été écrit, communion fraternelle, quel est le mot que vous utiliseriez en grec ? Koinonia, merci Marie-France. Voilà. Tu veux peut-être prêcher, Marie-France ? Comment tu le sais, ça ? Ah, je l'ai dit ? Oui, on sait c'est grec. Hein. On a souvent parlé de koinonia. Pardon ? Oui, oui, je l'ai dit aussi, mais... Vous savez, si moi, je perds les mémoires, donc je ne l'aurais peut-être pas su. Koinonia. Il persévérait dans la koinonia. Alors il y a un deuxième terme que je ne vais pas évoquer ce matin, mais qui en fait c'est les deux fondements de l'Église, la koinonia, et le deuxième terme c'est la diaconia. Alors là, je pense que tout le monde va savoir ce que c'est, parce que ça parle de soi. C'est quand même. En France, oui, le service, le diaconat, le service, le ministère, etc. Sauf que, j'en dirai pas plus, que vous savez, les mots sont chargés du sens duquel on l'utilise le plus souvent. Si on utilise un mot qui veut dire quelque chose en grammaire, enfin, si vous prenez le dictionnaire, en fait, si ce mot vous l'utilisez pour autre chose, c'est ça que vous allez retenir. Vous n'allez pas retenir ce qui est dans le dictionnaire. Okay. C'est ce qu'on appelle une langue vivante. Hein. Bon. Comme elle est vivante. Donc le diaconat, je veux dire, en général, on l'assigne à quoi, le diaconat ? Le diacre. On l'assigne à quoi, le diacre ? Voilà, au service des tables, aux aspects pratiques, etc. Or, ce n'est pas ça que ça veut dire. Quand, vous voyez, dans la Bible, la parole de Dieu, quand on utilise diaconat, enfin, quand la Bible utilise diaconat, c'est-à-dire inspiré du Saint-Esprit, diaconat, ça veut dire serviteur. C'est pas que serviteur aux tables, quoi. Vous voyez, c'est très, très, très général, c'est serviteur. Et les pasteurs, les anciens, sont des serviteurs, sont des diacres, si vous voulez. Oui, c'est pour ça que voilà, l'usage de diacre, hop, c'est l'aspect pratique. Hein. Bon, c'est Sylviane et Charles. Bon. Non, c'est moi aussi. C'est le diacre, le diaconat, c'est ça. Sauf que on utilise le mot ancien parce qu'il y a les mêmes critères de sélection du diacre et de l'ancien, sauf que l'ancien doit aussi savoir prêcher, défendre la foi, etc. Donc il y a une qualification supplémentaire. Si vous prenez Timothée, vous allez le voir, il y a juste ça qui change, enfin juste ça, c'est important, savoir apporter la parole, la défendre, etc. Mais c'est des diacres, serviteurs. Voyez-vous, ça empêche qu'on mette le pasteur sur un piédestal, on le verra cet après-midi. Voilà. Ce qui est souvent, ceux qui sont d'origine catholique, on le confond avec le prêtre. Et donc, voilà, c'est... Bon, alors j'arrête là pour diaconat. Mais on verra que c'est les deux mots qui fondent l'Église. Si on ne comprend pas ces deux mots-là, comment ils sont placés dans l'organisation de l'Église, on n'est pas dans l'Église telle que le Nouveau Testament nous la présente. On est dans autre chose, dans une tradition, mais pas dans la bonne tradition. Alors, koinonia, on va revenir à ça. Koinonia, ça veut dire quoi, koinonia? Allô? Communion, tout à fait, ça a été bien traduit. Communion. Sauf que là, c'est marqué communion fraternelle, mais il y a d'autres communions. Donc koinonia, il faut rajouter koinonia de quelque chose, donc fraternelle, mais on va voir d'autres choses et je voudrais juste évoquer ça rapidement avec vous pour que vous-même, vous puissiez, dans la parole, repérer ce terme de communion. Être en communion. Ça renvoie aussi à d'autres noms là que je n'écrirai pas, mais vous pouvez les écrire. C'est communauté. Hein, ça renvoie à communauté. Ça renvoie à association. Ça renvoie à congrégation. Ça renvoie à rassemblement de chrétiens, etc. C'est unir, si vous voulez. C'est unir. La communion, c'est union. Oui, c'est l'idée de l'union. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut noter, des catégories, si vous voulez, d'union. C'est un, bien sûr, vous êtes tous conscients de ça, c'est d'être en communion entre les chrétiens, mais avec Dieu. Voilà, donc c'est l'union avec Dieu. C'est pour ça qu'on est là ce matin, au culte, pour être en union avec Dieu, apporter un culte qui lui soit agréable, qui puisse accepter les sacrifices d'offrande qu'on lui apporte, qui sont des lèvres qui confessent son nom et qui puissent nous bénir. Nous voulons tous être bénis en sortant d'ici, vous êtes d'accord? Eh bien, c'est pour ça que nous devons apporter un culte qui lui est agréable. On peut lui apporter un culte qui lui est désagréable. Rappelez-vous juste l'histoire de Caïn et d'Abel. Tous les deux, ils ont apporté des sacrifices, sauf que l'un était favorable et l'autre défavorable. Il faut faire très attention la manière dont nous apportons un culte. Et l'idolâtrie est très rapide dans notre chair et il faut être très très attentif à ne pas tomber dans l'idolâtrie, en particulier la louange, enfin la musique, enfin toute la façon de faire. Hein. David est tout à fait conscient, on en parle de temps en temps. Hein. Quelles sont les inspirations que nous utilisons pour la louange, quelle est la place des instruments, etc. Encore qu'aucun instrument ne soit diabolique en soi, mais selon la manière et l'attitude que nous utilisons, ça peut être une idole. Donc attention, dans cette communion, dans cette union koinonia entre nous et Dieu, donc premier sens, c'est ce qu'on appelle la transcendance, c'est-à-dire qui est au-dessus, Dieu est tout autre, hein. C'est pas le grand tout, hein. Le nouvel âge c'est le grand tout, c'est le tout autre, c'est-à-dire qu'il n'est pas de le créer, Dieu n'est pas créé. Il est incréé et nous sommes créés. Donc, cette union avec Dieu, nous allons toujours rester des créatures et Dieu restera Dieu. Donc, il y a ce gap qui va toujours rester. Et nous devons lui apporter un sacrifice qui lui soit agréable, favorable. Et ça, c'est un des points dans la koinonia dont nous devons être attentifs. Le deuxième, utilisation de koinonia, c'est la communion dans le partage des biens. Dans le partage des biens. Là, vous voyez ici, un petit peu après d'ailleurs, verset 44, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions, partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun, etc. Et après, il parle d'un commun accord. Donc, c'est la koinonia, elle renvoie à l'union autour d'un bien commun. Et un autre terme, qui est plus vulgaire, mais qui exprime la même chose, c'est la république. Ça peut peut-être vous choquer, mais la république, telle qu'elle est conçue, c'est res publica. Et res publica, c'est la chose publique, c'est le bien commun. C'est ce qui unit une nation. S'il n'y a plus un bien commun, si chacun veut son bien, si chacun veut son désir, il n'y a plus de nation. C'est des individus qui sont assemblés et qui se battent les uns pour les autres. C'est la guerre civile, c'est tout ce que vous voulez. Mais quand on est dans une république, bien sûr, il y a la république idéale, mais la république de Jésus, c'est une république où on met les choses en commun, non pas par obligation, mais par amour, comme l'a très bien dit ce matin dans la présentation des offrandes Jérôme. Oui. Donc nous sommes dans la koinonia d'un partage de biens communs, de l'intérêt commun. Et ça aussi, c'est un défi. Regardez Paul. Alors, Paul, voilà, on dit, si Paul était ici, qu'il était pasteur, ce serait super, quoi. L'Église serait transformée. Détrompez-vous. Paul lui-même a dit, dans une des lettres, en disant, quand il a voulu aller dans une église, il a dit, bah, écoutez, je peux emmener personne parce que ils sont tous, j'ai demandé hein, qu'ils viennent avec moi, mais ils sont tous occupés à leurs intérêts personnels. Il n'y en a qu'un, c'est Tite, qui va venir avec moi. Waouh, quel leader! Il ne peut même pas entraîner les autres. Vous voyez, enfin, on pourrait crûment prétendre ça, mais il a été confronté aux mêmes difficultés il y a 2000 ans qu'aujourd'hui. Hein, vous voyez, quand on dit allez hop, on va évangéliser, on va faire quelque chose. Oui, non, mais moi, j'ai ça, j'ai mon père qui va mourir, il faut que je m'en occupe, etc. Bon, voilà, on est tous confrontés à l'intérêt personnel et à l'intérêt commun. Qu'est-ce qu'on va choisir? L'Église, il y a un intérêt commun. Il y a une mission. Jésus a donné une mission. Est-ce que nous sommes tous autour attentionnés à la mission ou nous sommes attentionnés à notre bien commun? C'est un défi. C'est pas un jugement, mais c'est un défi de tous les temps. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons plus de choses à faire, c'est simplement parce qu'on a des outils avec lesquels on peut faire des choses en parallèle, mais nous avons toujours un cerveau pour définir des priorités. Alors, et c'est celui-là qu'il faut faire marcher pour définir des priorités, une chose après l'autre. Amen. Moi, j'ai pas envie de me mettre en avant parce que vous l'avez fait pour mes 70 ans. Mais bon, c'est quand même un témoignage. Je sais que nous, on a une grande propriété, on l'a construit. Bon, c'est vrai que Dieu m'a donné les capacités. Mais avec Michel, on n'a jamais, jamais loupé. Ni un dimanche, ni tout un samedi. Alors vous me dites ce que vous l'avez fait. Ben, je l'ai fait dans d'autres temps. J'ai agi dans d'autres temps parce qu'on était responsable d'un groupe de jeunes. Et tous les samedis, on était pris. Et jamais on a loupé quoi que ce soit. On a mis Dieu en priorité. Et le Seigneur a pourvu autrement. Pendant les vacances, j'ai passé 10 ans, pas passé les vacances, les enfants, de 10 ans, on les a emmenés. Et avant, je m'occupais de la maison. Vous voyez, c'est une question de priorité. On a tous qu'être capables de prendre des priorités. Et qu'est-ce qu'on priorise? Est-ce que c'est le bien commun ou est-ce que c'est l'intérêt personnel? Le troisième koinonia. Donc je rappelle, premier, transcendance avec Dieu. Deuxième, bien commun. Et le troisième, eh bien, c'est d'être un. C'est l'unité. D'être un. Vous savez que la Trinité, on parlait tout à l'heure de ce que, effectivement, les juifs messianiques n'arrivent pas à accepter que Jésus soit Dieu. On ne demande pas de le comprendre, on demande de l'accepter. Les pères de l'Église ont mis 3-4 siècles à définir la Trinité. Parce que la Trinité, ça représente le mystère du Dieu 1 en 3 que Jésus a révélé. Jésus a révélé le Père. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu parce que le Père l'a envoyé. et parce qu'il glorifie le Père et le Fils. Vous voyez, toute cette notion que Jésus a amenée, ça ne passe pas par un raisonnement. Et pendant 3 siècles, les pères de l'Église qui ont fondé le christianisme et les dogmes, eh bien, ont dû s'atteler à ça avec des bagarres, avec l'arianisme, avec tout ça, etc. Et ça, c'est le fondement du christianisme. Donc faisons attention à ne pas établir d'autres fondements que ceux qui sont dans la parole de Dieu. Et donc, ce n'est pas évident de croire que nous devons être un tout en étant différents. René est différent de Laurence. Tu t'en es aperçu ? Laurence est différent de Lynn. Tu t'en es aperçu ? Lynn est différent de Samuel. Vous êtes aperçu ? Voilà. Pourtant, vous êtes un. Vous arrivez à l'expliquer, vous ? Moi, j'arrive pas à l'expliquer. Mais c'est ce que la Bible affirme. Quand nous sommes comme ici, en train d'adorer le Seigneur, nous sommes un. Allô ? Vous dites Amen ? C'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu. Et ça, ça nous renvoie à un autre défi. Un autre défi. Le défi, c'est que quand on est ensemble, comme ça, dans un culte ou l'église, voilà, il y a quelques moments où on se retrouve ensemble, on a Moving Glad aussi, qui est une autre dimension d'être ensemble, mais toujours pareil dans l'adoration, eh bien nous sommes un. Nous sommes supposés être un. Donc c'est un défi. Quand nous comprenons ça par la foi, pourquoi ? Parce que, est-ce que Jésus, il a fondé plusieurs églises ? Allô ? Qu'est-ce qu'il a fondé ? Son église, vous avez tout compris ? C'est pas au pluriel. Il n'a pas fondé ses églises. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Il y a une église ici, il y a une église à Mantes, il y a une église... Il y a 36 000 églises. C'est un mystère, mais on en parlera cet après-midi. Mais une seule église, une seule épouse, celle de Jésus, c'est l'église. C'est pour ça que, entre nous, ce qui est important, c'est l'église. Ce n'est pas le pasteur. Pas le pasteur, ce n'est pas les anciens. C'est pas... Je veux dire que ce n'est pas qu'ils ne soient pas importants, mais ce qui est difficile pour nous, c'est de croire et de vivre l'unité de l'église comme une. Amen. Ça peut dire que parce qu'on est un, on fait tout et n'importe quoi. Hein, voyez. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que c'est que l'Église. Et on en parlera cet après-midi pour bien saisir cette problématique. Comme le Père et le Fils, Dieu est en Christ, Christ est en nous, un en Christ, l'espérance de la gloire. Vous voyez, toute cette unité dans la koinonia qui est traduite dans les versets. Je vous bombarde de pas de versets. Ceux qui s'intéressent, j'ai un document là où il y a tous les versets qui reflètent ce que je vous dis. Et en fait, cette koinonia d'être un anticipe notre devenir. Est-ce que dans le ciel, il y aura des compartiments ? Alors là, il y aura l'église d'Aubergenville. Alors, à côté de ça, il y a l'église de Jouy-le-Moutier. Là, il y a l'église de New York. Là. Hello ? Qu'est-ce qu'il y aura dans l'église ? Dans le ciel, pardon. Hello ? Alors, il y aura les pentecôtistes, il y aura les réformés, il y aura les... C'est ça, non ? Hein, je ne vais pas faire la blague, mais vous la connaissez, chacun croit qu'il est tout seul. Là. Non ! Dans le ciel, nous serons une seule communauté de croyants qui adorent le Seigneur. Hello ? C'est notre devenir. Alors notre défi, c'est de partir divisé et de nous retrouver unis. Donc c'est un chemin et c'est pas facile. Et je me mets à votre place et je sais en tant que pasteur ce que c'est et je suis très content d'être à côté de Michel parce que moi je suis rationnel. Et elle est intuitive, mais elle me devance toujours. Moi, je comprends après quand elle le dit. Et c'est ça, l'intuition. Hein. Vous dites des choses, mais elle est souvent très juste. Et à un moment donné, dans l'Église, quand il y a eu des difficultés, elle a amené ce slogan que maintenant vous connaissez, « Nous sommes tous en marche ». Allô ? Attention, je ne parle pas de Macron. Hein. Nous sommes... Oui, oui, des slogans. Oui, on avait un slogan avant lui, hein, il nous l'a pris. Là. Nous sommes tous en marche. Et c'est vrai que quand elle a sorti ça, je dis waouh, quelle inspiration. Vous avez parfois deux mots comme ça, c'est une bombe quoi. Et c'est vrai que ça a amené toute l'église qui était là à cette époque-là à baisser le stress. Voilà, c'est pas les pasteurs qui sont avant les autres. Non, je suis pas avant vous. J'ai peut-être compris des choses que vous n'avez pas encore compris, mais c'est normal. J'irai dans la tombe avant vous aussi, bon. Une réalité. Mais j'essaie de transmettre aux jeunes qui puissent déjà faire plus de progrès avant que moi j'en ai fait et qui puissent aller plus loin. Mais il est certain qu'on est tous en marche. Personne ne peut dire j'ai atteint le but. Et Paul le premier dit moi je cours vers le but. Paul il courait vers le but. Donc le 1, il est un appel à être un et un devenir. Donc nous devons toujours avoir présent que nous sommes un. Et quand il y a des visions, quand il y a des choses qui ne vont pas, etc., il faut nous rappeler de ça. Il faut dire, Seigneur, aide-nous. Non pas à passer sur les différences, à les évoquer dans l'amour, la sagesse et surtout la vérité, mais que nous puissions continuer à marcher vers ce qui nous attend, c'est l'unité. Amen. Ce n'est pas l'œcuménisme facile, comme prêche la nouvelle réforme apostolique aujourd'hui, non. L'œcuménisme, comme ça, en passant, vous voyez, sur tout un tas d'erreurs, non. C'est pas ça, d'être un. Être un, c'est être un dans le Seigneur, dans la koinonia de l'amour. Et ça, je n'ai pas le temps de le développer ce matin. Des questions délicates, je vais quand même les évoquer, sont sur la koinonia. C'est deux choses, là aussi je peux juste les évoquer. C'est ce qu'en grec on appelle la théosis, je vous expliquerai ce que c'est, et les sacrements, voilà, qui renvoient à l'unité. Alors la théosis, c'est ce que les pères de l'Église, les théologiens du 4e, 5e siècle déjà, ont évoqué. C'est tous les passages où vous voyez que nous avons Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est en toi. Mais est-ce que c'est une union absolument indivisible? Voilà, donc moi j'ai Christ en moi, etc. Vous voyez, c'est un mystère. C'est un mystère que le Saint-Esprit habite en nous quand on accepte le salut. C'est pas parce que c'est un mystère que c'est pas vrai, mais le mystère veut dire que par notre raisonnement, nous n'allons pas le comprendre. Donc il faut l'accepter par la foi. Mais en même temps, pas aller trop loin. Parce que chez les orthodoxes, la théosis fait partie de leur doctrine aujourd'hui, la théosis. C'est-à-dire l'union avec Dieu. Alors, vous prenez par exemple Madame Guyon, qui est connue par tous les Américains et les Anglo-Saxons, qui à l'époque de Pascal était dans le quiétisme. Alors, je vous renvoie à ceux qui étaient à l'école, qui ont regardé Pascal. Vous savez, Pascal n'était pas très loin. Il était là à Paris, et dans le près d'Orsay. Là, maintenant, ils ont détruit. Comment ça s'appelait cet endroit où ils se réunissaient, les quiétistes, là. C'était en fait l'équivalent de ce qui se passait en Hollande, aussi avec les quiétistes. C'est-à-dire qu'ils cherchaient l'union avec Dieu. Il y avait des méditations, vous voyez, c'est un peu comme quand vous rentrez dans une église et vous cherchez l'union, voilà, vous êtes l'union avec Dieu. Donc après, il y a des techniques qui se développent, de méditation, etc., quand vous allez très loin. Donc il faut savoir que c'est vrai, nous sommes dans une union avec Dieu, mais nous ne serons jamais des êtres divins, nous resterons. Mais nous approchons, puisqu'il y a une union, vous voyez. Hello? Vous voyez, bon, j'évoque juste la difficulté sans vous donner tous les éléments, mais il faut faire attention de jamais aller trop loin dans même les vérités parce qu'ils deviennent idoles. Donc c'est la divinisation. Être divinisé. Et aujourd'hui, c'est le thème du Nouvel Âge, de vous aider à diviniser. C'est le piétisme aussi, que Wesley en a vu les dangers et les rose-croix, etc. La contemplation. Et les sacrements. Alors les sacrements aussi, ça va dans la koinonia. Savoir que certains actes, certaines choses peuvent être sacrées, voyez, peuvent être utilisées par Dieu pour bénir. Regardez l'huile qu'on prend pour guérir les malades. Est-ce que c'est l'huile qui guérit? Est-ce qu'il est sacré? Il n'est pas sacré? Alors, vous voyez, non, c'est ça. Alors, l'Église catholique, avant nous, a eu les mêmes difficultés, il les a résolues d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il a intégré tous ces éléments. Donc, dans l'Église catholique, vous avez tout le spectre. Hein. Si vous avez un problème chez les évangéliques, vous cherchez les catholiques, ils ont tout fait. Ils ont tout connu, etc. Donc, on n'a pas besoin de les critiquer parce qu'on recommence la même chose. Donc, il vaut mieux voir ce qu'ils ont fait et puis voir les dangers. Okay. Et les sacrements, ben, eux, ils ont dit que c'est la koinonia dans les choses. Vous voyez, dans les choses. Donc, par exemple, le baptême, pour eux, c'est un sacrement. Le mariage, c'est un sacrement. Donc, en elle-même, il y a quelque chose qui se produit. Par exemple, quand ils baptisent les enfants, ils vont dire, bon, c'est pas grave, s'ils sont complètement athées, si les parents acceptent de les baptiser, mais un jour, ça va produire son fruit. Même si c'est à 99 ans, peut-être que là, tac, il y a un déclenchement, il va s'être sauvé. Vous voyez, c'est la foi dans le sacrement. OK ? Alors que les évangéliques, nous, on croit plus dans le symbole. Ça renvoie à une réalité. C'est toute la notion du symbolique et du sacré qui se trouve beaucoup dans le luthérianisme aussi, qui a beaucoup gardé la notion de sacrement. Je termine par le dernier élément qu'il faudrait évoquer en parlant de koinonia. C'est, alors là c'est du latin cette fois-ci, parce que c'est dans le symbole des apôtres. Vous savez ce que c'est que le symbole des apôtres? Je trouve qu'on devrait le réciter avec foi. Plus souvent que aussi souvent que le Notre Père. Notre Père, c'est pareil. On veut pas des récitations comme l'Église catholique, ok. Mais dans le Notre Père, Jésus a appris le Notre Père à ses disciples, qui ont dit Seigneur, apprends-nous à prier. Donc c'est un enseignement, Notre Père, pas une récitation. Le credo, c'est quoi? Je crois en Dieu, le Père, etc. En fait, c'est un contracté de la foi chrétienne. C'est un contracté. Le symbole des apôtres dit, voilà, je crois au Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. En fait, le credo, ça résume, plus possible que vous ne pouvez pas résumer plus, toute la nature de Dieu, la nature de la rédemption, de Jésus, du Saint-Esprit, etc. Donc, le credo. Mais le credo renvoie à cette réalité de la communio sanctorum. Alors c'est le communio sanctorum. Je suis désolé d'être obligé de parler en latin, même si je ne l'ai jamais appris. Mais c'est à l'époque, tout était en latin. Du début du siècle, chez les Romains, c'est le langage des Romains, hein, comme aujourd'hui c'est l'anglais chez les Anglo-Saxons, jusque Saint Jérôme, il a écrit la Bible en latin, jusqu'à la Réforme, la Renaissance, où on a repris le grec et l'hébreu. Donc, le Communio Sanctorum, qui est le credo, en fait, l'idée de cela, c'est que l'homme reste séparé de l'accès au divin. Parce que il y a certains qui jouent sur ce credo-là pour dire que l'homme peut être divinisé. Ça rejoint la théosis là tout à l'heure, hein, la divinisation. Et donc il y a même aujourd'hui une église méthodiste unie, là j'ai lu ça ce matin, qu'ils ont enlevé le mot père dans le credo. Vous voyez. Ils ont gardé le Dieu créateur, mais c'était marqué créateur et père. C'est subtil, hein, juste enlever un petit mot. Oui. Voilà. Mais ça commence comme ça. Oui. Alors que tout, chaque mot a été prié, a été pensé, a été vérifié dans la parole de Dieu pour que on se trompe pas. Oui. Et hop, d'un seul coup, voilà, non, on enlève père. Parce que voilà, il n'y a pas la mère, vous voyez. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a une féminisation de tout, donc voilà, ça gêne. Donc vous voyez, la raison est mauvaise, mais le résultat est catastrophique, parce qu'on coupe. Et là, c'est pareil, la question de la communion dans la sanctification, hein, on ne sera jamais, et je vous le dis, si vous ne le savez pas, vous ne serez jamais Dieu. Non, mais c'est une trivialité. Mais sachez qu'il y a aujourd'hui des doctrines qui essayent de vous dire vous êtes Dieu. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Il suffit de sortir, vous guérissez n'importe qui, vous faites. Voilà. Vous êtes tout puissant. Voilà. OK. Parce que Dieu l'a voulu, etc. Non. nous serons toujours dépendants de Dieu. Amen. Il y en a qui veulent toujours être dépendants de Dieu. Amen. Restons dans l'humilité. Jésus nous a donné un exemple d'humilité et tout à l'heure on va le relire au moment de la scène. Il s'est humilié parce qu'il était homme et Dieu. Mais en tant qu'homme, il était parfaitement homme. Et il s'est humilié jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Il a lavé les pieds des disciples pour être serviteur, pour être dans la diaconia. Diaconia, koinonia. Les deux éléments de l'Église, nous les verrons cet après-midi pour être un petit peu plus concret aussi. Voilà. Et que vraiment le Seigneur nous aide à que cette koinonia, qui est la base de l'Église, puisse, en tant qu'Église, cette communion, elle parle d'elle-même. Nous avons besoin de grandes paroles. Il vaut mieux expliquer aux gens qui se disent « Mais pourquoi vous avez telle koinonia ?» Et hop, vous parlez. Et s'ils ont soif, ils reçoivent le Seigneur. S'ils n'ont pas soif, ils passent. Mais c'est cette koinonia qui doit parler aux gens. La koinonia. C'est pour ça que si le Seigneur m'a poussé cette année à reprendre en main un peu plus que je l'ai fait les groupes de maison. On a passé deux samedis ensemble. Parce que c'est là aussi que la koinonia, la communion fraternelle, se manifeste beaucoup plus que dans un culte où on est vers le Seigneur. Bien sûr, on a des temps après, mais dans les groupes de maison. L'idée, c'est que la koinonia puisse se manifester. Et que les gens autour dans le quartier disent « Mais c'est formidable, quand ils sortent, ils sont rayonnants. » Est-ce que vous voulez rayonner quand vous sortez d'un groupe de maison? Quand il y a eu le réveil, je termine là-dessus, Colette a évoqué le réveil. En France, il y a eu un réveil puissant. Au travers de l'église de Pentecôte, des assemblées de Dieu. Ils ont commencé au Havre, et c'est comme une traînée de poudre. Ça a suivi le cours de la Seine, et c'est descendu jusque dans l'Ardèche et jusqu'à Marseille, et de l'autre côté aussi, partout. Eh bien, ma belle-mère... Donc la maman de Michel était très catholique, elle avait une Sainte Vierge qu'elle baladait dans son sac tout le temps. Elle était usée parce que voilà, connaissait les catholiques, etc. Et en fait, elle habitait dans la rue, rue de Coville, avec une copine là. Elle habitait au début de la rue et là-bas, il y avait l'entrée assez loin. Et en fait, elle regardait les fous qui sortaient. Il disait, on va regarder les fous. C'était un spectacle. Regardez les fous qui sortaient. Ils étaient fous, pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement heureux qu'ils en prenaient pour des fous. Quoi. Ils ne connaissaient pas ça dans la ville de Rouen. Parce que là, ils disaient, mais c'est les fous, voilà, c'est une attraction, c'est les fous, ils sortent. Ils sont heureux, ils sont. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, parce qu'elle n'était pas allée, quand elle est allée à l'intérieur, elle était touchée. Parce qu'à l'intérieur, ils racontaient tous les miracles que Dieu faisait. Michel, elle a vu des goitres énormes comme ça. Au nom de Jésus, ça a disparu comme ça. Des jambes se rallonger, des machins, etc. Des miracles. Tout le temps, il y a des miracles. Puissance. Comment voulez-vous ne pas être dans la joie et dans l'extase? Voilà. Ça, c'est la koinonia. Koinonia avec Dieu, koinonia avec les autres. Et ça, ça les a touchés. Et là, il a dit, il faudrait qu'un jour, on voit ce qui se passe. Et Italie a été touchée parce qu'elle cherchait Dieu au fond d'elle-même. Amen. Est-ce qu'on veut ça? C'est encore plus fort que de mettre dans les boîtes aux lettres. Je ne dis pas de ne pas le faire. Mais la koinonia. Et moi, j'aspire à ce que les groupes de maison soient des koinonia. Amen. J'aimerais juste prier pour ceux qui sont responsables de groupe. Parce que je sens vraiment prophétiquement qu'il faut quelque chose qui bouge. Quelque chose qui bouge, pas uniquement dans les réunions officielles d'église, mais dans les groupes de maison. Venez rapidement parce que je ne veux pas trop traîner, juste devant. Bruno. Voilà. Au passage, vous voyez, pour l'instant, j'espère qu'il y en a d'autres, hein, mais je souhaite que tout le monde puisse appartenir à un groupe de maison pour que cette koinonia, cette communion fraternelle, basé sur la communion avec Dieu, puisse se développer. Seigneur, je te prie, je te demande de vous lever, d'étendre vos mains, pour bénir ces personnes qui ont le courage et l'audace de mener ces groupes vers la destinée qui est d'être une koinonia, une communion fraternelle communion avec Dieu. Seigneur, bénis ces hommes qui sont là. Seigneur, je te demande de bénir Charles, de bénir René, de bénir Bruno. Et que, Seigneur, il n'y ait aucun découragement qui puisse les atteindre. Qu'ils puissent, Seigneur, comme un lion qui avance, puissent avancer parce que c'est toi qui veux que ces groupes soient des témoignages de ton amour. C'est-à-dire, c'est là que l'amour se manifestera et qui va se répandre afin que les voisins puissent dire « c'est pas possible, il faut que je voie ce qui se passe là » et qu'ils soient touchés par l'Évangile. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande de les bénir. Amen, amen, amen. Merci. Amen. J'invite des personnes, ce ne sont peut-être pas désignées ici. Ok. Voilà, pour le temps de communion. Donc on revient à la koinonia, de la communion avec le Seigneur au travers de ce qu'il a fait il y a 2000 ans avant de mourir. Il a instauré cette table à laquelle nous allons commémorer jusqu'à ce qu'il vienne. Amen.